VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Kinshasa, bonjour à tous. En République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, Corneille Nangaa, doit officiellement lancer aujourd'hui le début de la campagne électorale lors d'une rencontre majorité-opposition à l'Assemblée, avec un jour d'avance sur le calendrier électoral. La campagne doit prendre fin le 21 décembre à minuit, deux jours avant les élections présidentielles, législatives et provinciales, à un seul tour prévu le 23 décembre. 21 candidats briguent la succession du président Joseph Kabila et toujours en RDC, l'UDPS, Tshisekedi et l'Union pour la Nation Congolaise envisagent un ticket commun pour la présidentielle. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, les leaders de ces deux partis, qui se sont retirés de l'accord de Genève au lendemain de la désignation de Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition, discutent de la question à Bruxelles. Les détails avec Thierry Kabondi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
S'unir et mettre leurs forces au sein d'une plateforme commune afin d'affronter ensemble à travers un ticket gagnant les élections du 23 décembre 2018, c'est l'objectif que se sont fixés Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe dès le lendemain de leur retrait de l'accord de Genève et de la coalition Lamuka. Ils poursuivent à Bruxelles des discussions et semblent très proches d'un accord selon leur entourage. Les discussions vont bon train. Dans les toutes prochaines heures, nous allons en rendre public les résultats, a dit à VOA Afrique Jean-Marc Kabunda Kabund, le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. Un proche de Vital Kamerhe a même publié sur les réseaux sociaux un communiqué annonçant un accord. Mais à l'UDPS, on reste prudent. Il ne s'agit que de l'ébauche d'un accord qui doit être porté à la signature des leaders de l'UDPS et de l'UNDP, a poursuivi Jean-Marc Kabunda Kabund avant de conclure. À l'étape actuelle des discussions entre nos deux partis, chacun est astreint au principe de réserve. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui ont quitté la coalition Lamuka, sont appelés à vite se prononcer car la campagne électorale démarre ce jeudi 22 novembre 2018. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le député et ex-chef de milice centrafricain Alfred Yekatom, dit Rambo, va comparaître vendredi pour la première fois devant la Cour pénale internationale. Il avait été remis samedi dernier à la CPI pour sa responsabilité présumée dans des atrocités commises en Centrafrique depuis 2012. Irénée Amanongbo.
La première comparution d'Alfred Yekatom devant la chambre préliminaire 2 de la CPI aura lieu le vendredi 23 novembre 2018 à 11h, a indiqué la Cour dans un communiqué. Au cours de l'audience, la Chambre vérifiera l'identité du suspect et la langue dans laquelle il pourra suivre les procédures. Alfred Yekatom sera informé des charges portées à son encontre. C'est le premier transfèrement vers la CPI depuis l'ouverture de l'enquête sur la Centrafrique en septembre 2014 sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis à partir de 2012. Selon le procureur de la Cour, Fatou Bensouda, il renforce la cause de la justice en Centrafrique, pays ravagé par des violences meurtrières depuis 2012. Depuis cette année et le début de l'offensive qui a abouti à la prise de Bangui par l'ex-coalition de la CELECA, la Centrafrique est le théâtre de violences qui ont forcé un quart des 4,5 millions d'habitants à fuir leur domicile. Une mission onusienne de maintien de la paix, la MINUSCA, est déployée depuis 2014 à la suite d'une intervention militaire française et tente de préserver les civils.
Le dossier de ce journal, les 30 années de conflit chronique en Somalie, ont laissé environ une personne sur trois touchées par des problèmes de santé mentale tels que le trouble de stress post-traumatique. Cependant, il n'y a que trois psychiatres agréés dans toute la Somalie. Reportage Arzuma Compaoré.
Ayan Adam, 20 ans, et sa mère ont fui la Somalie pour le Kenya après l'attaque du groupe terroriste Al-Shabaab en 2010 dans leur quartier de Mogadiscio. Mais leur demande d'asile a été rejetée.
Ayan Adam, patiente souffrant de TSPT.
Nous avons fui les bandes armées, les explosions à Mogadiscio et avons rejoint le camp de réfugiés d'Agadir. Mais lorsque nos espoirs ont été déçus, nous avons dû retourner chez nous.
Après une dépression, Ayan a aménagé dans ce centre pour traiter son trouble de stress post-traumatique.
Alima Roble, mère d'Ayan.
Alors que je la recherchais partout, on m'a informé que ma fille avait été retrouvée par une agence humanitaire de la région. Je m'y suis précipitée et j'ai vu qu'elle avait d'horribles bleus sur son corps et qu'elle criait.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, un tiers des Somaliens sont touchés par des problèmes de santé mentale, tels que le trouble de stress post-traumatique. Mais Ayan est l'une des rares personnes à bénéficier d'un traitement approprié. approprié. Docteur Abdourahmane Ali Awale, psychiatre.
Les causes du syndrome de stress post-traumatique dans ce pays incluent une peur constante due à l'hostilité des populations environnantes, aux explosions, aux déplacements, au chômage et à la pauvreté, qui est en fait l'une des principales causes du stress.
L'attention accordée par la Somalie à la sécurité fait qu'il existe peu de ressources pour traiter les problèmes de santé mentale. La dépendance à des drogues comme le stimulant narcotique contenu dans la feuille de rate ne fait qu'aggraver le problème. Les patients souffrent d'un manque de médicaments, d'infrastructures médicales et de médecins.
Dr Abdul Rizak Youssouf, directeur du service médical au ministère de la Santé.
Bien que le TSPT a été inclus dans le plan stratégique national de la Somalie, le gouvernement n'est pas en mesure de fournir des données de base officielles. Cela a retardé l'intervention nécessaire de l'État contre le TSPT en matière de traitement, de prévention contre le cancer psychosocial. Tous ces obstacles nous empêchent de lutter efficacement contre le TSPT.
Pendant ce temps, des Somaliens comme Ayan font de leur mieux pour surmonter le traumatisme de la violence en espérant pouvoir un jour vivre une vie normale.
Une bénévole humanitaire italienne a été enlevée dans un village du sud-est du Kenya par un groupe armé qui a ouvert le feu sur les habitants et blessé 5 personnes. Les attaquants ont tiré sans faire de distinction sur les habitants avant d'enlever la ressortissante italienne âgée de 23 ans et bénévole dans un orphelinat lors de cette attaque survenue mardi après la tombée du jour à Chekama, un village du comté côtier de Kilifi, a déclaré la police dans un communiqué. 3 enfants figurent parmi les blessés, dont un âgé de 10 ans a été atteint à un œil. Les blessés ont été conduits dans un hôpital et la police est déployée pour traquer les criminels, poursuit le communiqué.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, le président américain Donald Trump préfère préserver une alliance qu'il juge stratégique, tout en estimant que le prince héritier saoudien était peut-être bien au courant de son assassinat. M. Trump a dit que cela ne remettra pas en cause la relation entre Washington et Riyad. Eric Manirakiza.
Les États-Unis entendent rester un partenaire inébranlable de l'Arabie saoudite. Le président américain a énuméré différentes raisons qui consolident cette alliance stratégique à ses yeux. Lutte contre l'Iran, ennemi commun, combat contre le terrorisme islamique radical, achat d'armes américaines ou encore stabilité des prix du pétrole, dont Riyad est le premier exportateur mondial. Nous ne connaîtrons peut-être jamais tous les faits entourant le meurtre de Jamal Khashoggi, un crime épouvantable que notre pays ne pardonne pas, a ajouté le président, soulignant dans le même temps une nouvelle fois les dénégations du prince héritier et de son père, le roi Salman. La CIA n'a pas abouti à une conclusion définitive, a-t-il précisé. En revanche, plusieurs médias américains affirmaient que la CIA n'a plus de doute sur la responsabilité du prince héritier Mohamed Ben Salman. Washington a imposé la semaine dernière des sanctions financières contre 17 exécutants déjà connus. Le Congrès américain pourrait engager des procédures pour prendre des sanctions plus sévères ou stopper les ventes d'armes à Riyad. Et les appels au Congrès se sont multipliés dès la déclaration du président Trump.
Le bilan du Camp Fire, l'incendie dévastateur le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, est monté à 81 morts avec la découverte de 2 nouvelles dépouilles, ont annoncé mardi des responsables. Le nombre de personnes portées disparues dans l'incendie est passé de 200 à 870, un chiffre qui a évolué ces derniers jours à cause de la confusion entourant la recherche de corps dans la ville de Paradise, en grande partie détruite par les flammes. Ce nombre a culminé samedi à 1276 et était de 699 lundi. L'incendie qui a détruit 61 500 hectares et plus de 12 000 maisons depuis le 8 novembre dans le nord de l'État de Californie est maintenant contenu à 75%. Et puis le président américain Donald Trump a transmis mardi ses réponses écrites au procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'enquête sur l'ingérence de la Russie dans la campagne présidentielle de 2016. Monsieur Mueller cherche en particulier à déterminer s'il y a eu collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump. Ce dernier a une nouvelle fois dénoncé mardi une chasse aux sorcières. Pas de collusion, rien, a-t-il martelé depuis les jardins de la Maison-Blanche avant de s'envoler pour la Floride, où il a prévu de célébrer la fête de Thanksgiving. Jean-Roger Billon à ce micro. Nous sommes le 21 novembre 2018. Bon après-midi à tous sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.